Romains 8, s'il vous plaît. Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
Alors, est-ce que tous ont eu cette petite feuille bleue? Levez la main ceux qui n'ont pas. On a deux volontaires qui vont vous la distribuer. Vous n'avez pas le droit de la lire. Pas de suite. Vous savez, il y a quelqu'un un matin qui me dit, ça a l'air que ça va être rough. Hier, la semaine passée, je ne voulais pas faire peur à personne. Ça va faire dur cette semaine. Ça va être rough avec le temps, oui, mais c'est la parole de Dieu, hein, n'est-ce pas? On a faim et soif de la parole de Dieu. Et pour nous, enfants de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir prendre le temps de laisser la parole de Dieu nous imbiber en nous. Et on se sent bien. Richard, regarde à droite là-bas. Richard. On a là. Un sujet qui est important, et j'aimerais commencer à vous citer. En 1988, John MacArthur a écrit un livre qui a fait couler beaucoup d'encre depuis le temps. Et il a été traduit en français. C'est « The Gospel According to Jesus Christ », l'Évangile selon Jésus. Et j'aimerais vous lire ici une citation. L'Évangile à la mode de nos jours présente un faux espoir aux pécheurs. Il leur affirme qu'il est possible d'avoir la vie éternelle tout en continuant à vivre en rébellion envers Dieu. Il encourage même à confesser Jésus en tant que sauveur, tout en rapportant à plus tard l'engagement de lui obéir en tant que Seigneur. Ils promettent le salut de l'enfer, mais pas nécessairement la libération de l'iniquité. Ils offrent une fausse sécurité à ceux qui se plaisent dans les péchés de la chair et rejettent avec mépris la voie de la sainteté. En séparant la foi de la fidélité, cet évangile enseigne qu'une adhésion intellectuelle est tout aussi valable qu'une obéissance soumise à la vérité. Et la citation, j'aimerais souligner doublement ce matin, la promesse de vie éternelle sans soumission à l'autorité divine alimente la perversion d'un cœur non régénéré. Si vous n'avez jamais lu ce livre-là, je vous encourage à le lire. Parce que le chapitre 8 de Romains que nous sommes en train de regarder ensemble parle exactement de ce problème. Cette fameuse question, c'est quoi ça un chrétien? Hier après-midi, j'ai rencontré un paquet de chrétiens qui ne connaissaient pas l'Évangile. Au moins trois. J'ai pu témoigner, qui se disait chrétien, mais ne connaissait pas l'Évangile. Et c'était populaire aujourd'hui, n'est-ce pas? On voit à la TV des gens qui sont interviewés des fois, peu importe d'où ils viennent, tout le monde se dit chrétien, ou presque. Nous sommes dans la chrétienté. Nous sommes de ceux qui sommes chrétiens. Et on voit même dans certains milieux, les prêtres, ce n'est même plus des prêtres, c'est des pasteurs. Alors, ça change au Québec. Et Romains 8 nous amène à réfléchir sur la sanctification et la doctrine de sainteté dans la marche du croyant. Et lorsque j'ai dit la semaine passée, ça va être important cette semaine parce que je vous offre un miroir. Je vous offre un portrait robot. Vous connaissez la chanson au Québec qui dit « Si le chapeau te fait, mets-les donc. S'il ne te fait pas, laisse-les là. » Vous allez peut-être vous sentir pas sauvé, peut-être vous allez vous sentir très sauvé, mais je ne recherche pas les émotions. Ce que je recherche, c'est une réflexion ensemble ce matin sur ces textes tellement importants de la parole de Dieu. Et il y a trois mots importants, souvenez-vous, la semaine passée. Le mot important, le mot « esprit » qui paraît 21 fois juste dans le chapitre 8. Un deuxième mot important, c'est le mot « chair » qui paraît 13 fois. Et le mot « chair » est traduit de différentes manières, dépendant du contexte. Il nous parle des parties du corps. Ça vient d'un mot qui parle de la viande, littéralement. Ça parle aussi de l'humanité versus le spirituel, la chair. Mais la signification pour nous ce matin, la plus importante dans le Nouveau Testament, c'est la nature pécheresse non régénérée. Cette nature pécheresse qui n'est pas régénérée, cette chose que nous avons sous Adam, qu'on a vu au chapitre 5. Et un autre mot très important, c'est le mot « phronéo » qui paraît 5 fois, qui est 6 fois dans le mot en français, mais les traducteurs l'ont rajouté. Mais dans le fond, il paraît 5 fois. Et c'est le verbe, une fois le verbe, puis il paraît 4 fois en nom. Et c'est un mot extrêmement difficile à traduire, mais qui est un mot très important qu'on va voir dans le contexte tout à l'heure. C'est un mot qui nous parle de notre pensée, de notre comportement, de notre mentalité, qui nous parle de notre affection, parce que c'est le même qui est traduit, affection, dans notre texte, et nous amène à réfléchir où vont nos affections. Quelle sorte de mentalité est-ce que nous avons? Quelle sorte de mentalité, de pensée que j'entretiens, moi, comme chrétien? C'est quoi un chrétien chrétien? Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de chrétiens? Là, m'a dégagé, il n'y a personne en arrière là-bas, là, vous donner un coup de main. Est-ce que quelqu'un qui sait comment que ça fonctionne en arrière? Parce que monsieur n'est pas là. Il fonctionnait tout à l'heure, hein? Vous l'avez vu? L'avez-vous vu? Le témoin? Oh! Ça fonctionne. Merci, mon frère. Trois sortes de personnes. On va dire, il y a le non-chrétien, celui qui est sous Adam. Il y a le chrétien. Et puis, une autre sorte de chrétien qu'on a inventé en s'en allant, c'est le chrétien qui vit comme un non-chrétien, qui a une mentalité de non-chrétien. Lui, on l'a inventé. Puis, il n'est pas dans Romains 8, celui-là. Romains 8 nous parle d'un non-chrétien ou d'un chrétien. Le non-chrétien qui vit comme un non-chrétien, attention, c'est pas l'Évangile qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Oui, on a une nature pécheresse, oui, on lutte contre le péché, oui, on fait encore des péchés, mais Romains 8 nous parle de deux sortes d'hommes. Et oui, on peut dire, oui, je suis chrétien. Et se lever le lundi matin, puis vivre comme un sans Dieu. Vivre comme quelqu'un qui a une mentalité de personne qui est en rébellion contre Dieu. Et venir le dimanche matin, jouer aux chrétiens, et s'en aller durant la semaine, et vivre en non-chrétien, et se donner l'assurance que parce qu'on remplit certaines conditions, je viens d'une réunion évangélique, j'emmène une Bible, je chante des cantiques, donc je suis un chrétien. Romains est en train de nous parler de deux mentalités. Et ces mots-là sont associés ensemble. Ceux qui ont l'affection de la chair et ceux qui ont l'affection de l'esprit. Ceux qui ont la mentalité de la chair et ceux qui ont la mentalité de l'esprit. Où vont nos affections? Dieu va plus loin que le geste. Dieu voit la motivation, il voit le cœur. Donc, tous les gestes religieux que vous pouvez faire, même les gestes évangéliques, ne démontrent pas que vous êtes un vrai chrétien. Ça peut ressembler, ça peut sentir, mais Dieu qui regarde le cœur, et nous avons dans ce texte une définition de l'homme naturel sans Dieu. À quoi ressemble quelqu'un qui n'est pas vraiment né de nouveau, peu importe sa façade. Je n'ai pas le temps ce matin, mais Jonathan Edwards, j'ai fait toute une liste là-dessus. Les émotions. Avoir des grosses bébusées. Dire qu'on est sincère. Dire que moi, je suis un simple chrétien, puis les autres, c'est des disciples. Comme s'il y avait deux classes de chrétiens. Dans la Bible, il y a une sorte de chrétien, c'est des disciples du Seigneur Jésus. Et il y a une portée vers les deux extrêmes. Pourquoi un contraste entre un chrétien et un non-chrétien dans Romains 8, 5 à 8? Afin de démontrer que l'exigence, les exigences de la loi ne peuvent pas être rencontrées par un non-chrétien, mais seulement par un chrétien. L'exigence de la loi. On ne peut pas imposer à des non-chrétiens de vivre comme des chrétiens. Ça ne fonctionne pas. Il y a plusieurs années, j'avais vu dans le Time Magazine, justement, un évangéliste très connu, je ne nommerai pas, ça ne donne rien, qui avait essayé ça. Il était d'une ville où tout était chrétien, les dépanneurs. Tu te faisais arrêter par la police puis tu lisais un verset biblique avant de donner le billet. Puis là, tout est chrétien là-dedans. Là. Et toute l'histoire tourna autour d'une ville chrétienne. A born-again city. Hein? Mais la parole nous parle qu'il y a un contraste très, très, très réel entre le chrétien et le non-chrétien. Entre le disciple du Seigneur Jésus que lui est chrétien, et son affection, c'est vers l'Esprit de Dieu. Il s'attache aux choses de Dieu. Maintenant, le miroir. Et Phronéo, là, on peut le trouver dans ses pensées. Le non-chrétien, celui qui attache son affection à la chair, voici à quoi qu'il ressemble. Et je vous dis que ça m'a travaillé, cette affaire-là. Je me suis regardé moi-même dans le miroir, ça me tentait de me mettre sous discipline une secousse. Je ne l'ai pas faite. Et j'ai réalisé à fin de compte que, Michel, ça fit-tu ton affaire? Mais regardez bien là. Sentez-vous pas attaqué. Mais dites-vous une affaire. Si continuellement le caractère d'un non-chrétien, ses pensées, sa mentalité, son désir, son affection, sa conduite, son comportement, son attachement vers et dans les choses de la chair. C'est ça ressemble. Le mot phronéo, là, il se traduit dans ces mots-là qui se ressemblent pas mal, tout collé ensemble, dépendant de vos traductions. Le non-chrétien se lève le matin et se dit: moi, là, je vais vivre en chrétien aujourd'hui. Il se lève, il se fait la barbe, déjeune, puis il passe la journée à pécher contre Dieu, puis il aime ça, puis il donne toutes ses affections à ça. Une inclinaison de la volonté de l'âme vers les choses de la chair. Et vous savez ce que Paul dit là, dans 1 Jean, on a la même chose. celui qui est né de Dieu n'est pas continuellement en train de pécher comme autrefois avant d'accepter le Seigneur. Jésus est sauveur et maître de sa vie. La seigneurité de Jésus-Christ est réelle et immédiate à la nouvelle naissance. Et mes amis, il faut vraiment réaliser que cette affection, cette mentalité, ces désirs, ces affections, cette conduite anti-Dieu, ce n'est pas le miroir, ce n'est pas le portrait d'un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que ça fait à des gens comme ça? Ils peuvent faire bien des choses, mais dans le cœur des cœurs, ils trouvent l'adoration plate. Ils n'aiment pas étudier la parole de Dieu ni lire la Bible. Les choses de Dieu ne les intéressent pas une minute. C'est bien d'autres affaires alentour qui les intéressent. Leur but de leur vie, ils ont des petites ambitions personnelles, des agendas personnels, ou que Dieu n'est pas intégré dedans du tout. Mais ils peuvent circuler d'un milieu évangélique et chanter des cantiques bien, bien forts, se promener avec des grosses bébusées, et le reste de leur vie, soit en secret, caché, ou soit devant tous, tout ce qu'ils font nous dit que leur affection va vers les choses de la chair, de cette vieille nature qui est encore là sous Adam. N'oublions pas, lorsqu'on parlait l'humanité sous Adam, l'humanité sur Jésus-Christ, lorsqu'on est nouveau, que le Saint-Esprit vient habiter en nous, on devient des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Nos affections vont vers les choses de l'Esprit de Dieu. Et d'une manière imparfaite, parce que la vieille nature est encore là, nous sommes en train de lutter contre le péché qui si facilement nous enveloppe. Il nous retarde dans notre croissance spirituelle. Une affection qui est réelle. Et nous passons de l'humanité d'Adam à l'humanité de Jésus-Christ, nouvelle humanité. Et posons-nous la question ce matin, de quel côté est-ce que je suis? Est-ce que mes affections, mon amour, mon être, c'est vers les choses, vers l'humanité de Dieu ou vers l'humanité d'Adam? Bonne question à se poser. Sa conduite présente est inamitié contre Dieu. C'est pour cela. Il est ennemi de Dieu. Celui qui affectionne la chair est ennemi de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Impossible de se soumettre à la loi de Dieu. Et là, il faut choisir, c'est pour mon temps, la loi de... Mais c'est quoi la loi de Dieu? Est-ce que vous voyez la loi? Et j'entends, vous disiez, « Ah non, moi, on n'est pas sous la loi, nous sous la grâce. N'est pas me dire comment vivre ma vie. » Ah, vous autres, les gros canons, comme ça d'autre jour. Les gros canons, n'est pas me dire comment vivre ma vie. On est sous la grâce. Laisse-moi vivre en rébellion. Laisse-moi pécher comme que je veux. Je suis sauvé, pareil. Mentalité, affection, c'est quoi qui se passe? Et c'est là que vous allez prendre votre feuille bleue et la lire chez vous. Parce que c'est des belles choses, hein? C'est des belles choses. Dans la parole, on a la loi de Dieu, la loi de Christ, la loi parfaite, la loi de la liberté et la loi royale. C'est l'amour. On ne peut pas aimer de la même qualité d'amour dont Dieu nous a aimés, Romains 5:5, parce que les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu pour le faire, parce que c'est par la grâce de Dieu que nous marchons pour lui. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous combattons le péché. Et cette loi, nous pouvons l'accomplir. Oui, d'une manière faible, quelquefois. Oui, on tombe et on se relève. mais notre affection, notre tendance, notre attachement, nos désirs sont vers les choses de Dieu. Quand on ne peut plus lire nos Bibles, lorsqu'on trouve toutes les prédications plates, lorsqu'on trouve le pas du Seigneur niaiseux, il y a de quoi qui ne marche pas dans ça. Le cœur est-tu connecté à quelque part avec le cerveau? Et cette loi, nous pouvons la mettre en pratique devant Dieu par la puissance du Saint-Esprit, en aimant comme Dieu a aimé. Et la loi, sans avoir le temps, faites-la chez vous. Prenez les 10 commandements dans Exode 20 et prenez 1 Corinthiens 13 et vous pouvez faire une liste de l'amour. Aimez Dieu, aimez l'autre. Jésus avec les pharisiens dans Matthieu 22, 37 à 40, c'est justement cette grande question. Le pharisien, Jésus lui répond à ce pharisien qui pose, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Ceux qui affectionnent la chair ne peuvent pas aimer Dieu. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sans la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, on ne peut pas aimer de cette qualité d'amour-là. C'est impossible. Même s'il veut. Puis regardez le verset 40. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Est-ce que vous saisissez ce que le Seigneur vient de dire? Il vient de résumer toute la loi et les prophètes. Aimez Dieu, aimez ton prochain. Avez-vous déjà essayé d'aimer Dieu et d'aimer votre prochain sans l'Esprit de Dieu? Si vous levez la main, vous venez de dire que vous ne l'avez pas. Ça prend l'Esprit de Dieu pour ça. Et c'est ce que Paul est en train de dire dans Romains 8. C'est intéressant, l'histoire des deux Williams. J'aurais pensé la sauter, mais je vous la raconter, c'est très intéressant. En 1785, un homme qui, en Grande-Bretagne, s'est converti, s'appelle Wilberforce, que vous avez sûrement connu, vu des films, qui a travaillé bien fort pour abolir l'esclavage, William Wilberforce. Et il y avait un ami qui s'appelait un autre William, William Pitt, qui était premier ministre de l'Angleterre dans le temps. Et il y avait un évangéliste qui était là. Il s'appelait Cecil. Richard Cecil. C'est un drôle de nom. Ça ressemble à Cecil, mais ce n'est pas Cecil, pas de Whopper. Lui, c'est un évangéliste. Puis le premier William, Wilberforce, lui, il s'est converti. Et puis, il était très excité du ministère de cet homme-là. Puis, il invite son ami, William Pitt, qui était premier ministre. Puis, il dit, viens écouter ce gars-là. Il prêche. Il prêche l'Évangile. Viens écouter ce gars-là. Comme de fait, un moment donné, il allait l'écouter une soirée, puis en sortant de la salle de réunion, Wilberforce, il demande à Pitt, il dit, puis il dit, comment t'as trouvé ça? Et là, William Pitt, il se vire d'abord, puis il dit à Wilberforce, il dit, écoute, il dit, j'ai absolument rien compris ce qu'il dit ce gars-là. Ça te dit quoi, ça? Pourtant, Pitt, il se disait chrétien. Il était dans la politique, puis il était chrétien. Puis il se disait chrétien. Mais il ne comprenait absolument rien de ce qu'il venait d'entendre du prédicateur. Vous savez, des fois, je dis, est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas mon jargon, qui ne comprend pas ce quand on parle de la parole de Dieu, là, s'il vous plaît, venez nous voir, on va s'asseoir. La chair, l'homme naturel, sans Dieu, ne saisit pas les vérités spirituelles de Dieu. C'est pour cela qu'un enfant converti à Christ connaît le salut. Mieux qu'un érudit sans le salut. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il y a plusieurs textes. Incapable de plaire à Dieu, verset 7. Il ne peut même pas, même s'il voudrait. Éphésiens 4, 18 vont dire ceci, parce qu'il y a un beau parallèle d'Éphésiens 2 aussi, ce qu'on voit là. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils parlent de qui? Des non-régénérés, ceux qui affectionnent la chair. Ceux qui se lèvent le matin, la priorité, c'est de vivre pour eux égoïstement, vivre sans incorporer Dieu dans leur vie, vivre sans être une lumière pour Dieu. Ils s'en foutent comme dans l'an 40. C'est cette sorte de mentalité. Même s'ils fréquentent des milieux évangéliques. Et la peur, c'est d'avoir des gens qui se disent chrétiens, qui se pensent chrétiens, puis ils ne sont pas pantoute. Puis ils se virent d'abord, puis ils regardent leur vie, puis ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a rien qui marche. Je ne comprends pas ça. Moi, je prie, puis c'est rien qui arrive. Je prie, puis il n'y a rien qui se passe. Je ne comprends pas ça. Moi, ça ne marche pas, mon affaire. Et ils prennent toutes sortes de décisions anti-Dieu. Ils prennent toutes sortes de priorités que Dieu ne peut même pas approuver. Puis là, ils se virent d'abord, puis ils se demandent pourquoi Dieu il les a fait ça. Il y en a un qui me dit, « Pourquoi Dieu m'a fait ça? » L'autre jour, il y en a un qui me dit, « Je me demande si je suis dans la bonne gang. » Pas des farces, là. C'était peurant d'entendre ça de quelqu'un. Ils ne comprennent pas. L'affection de la chair ne comprend pas les choses de Dieu. Et c'est ce que Romains 8 est en train de décrire. Caractéristique d'un homme. Alors, on voit ici dans le texte qu'il va mettre phronéo et pneuma, esprit. Alors, on a encore la même chose. Sa pensée, sa mentalité, son désir, son affection, sa conduite, son comportement, son attachement vers et dans les choses de l'esprit. Lorsqu'on rencontre des gens avec une Bible dans les mains, puis qu'ils se disent chrétiens, c'est-tu surprenant de leur demander d'ouvrir la Bible? Comprenez-vous? Est-ce que on n'a pas tout ensemble ce même manuel du disciple? Lorsqu'il y a des cours pour étudier la parole de Dieu, puis on encourage les gens à lire la Bible, à étudier la Bible. Pourquoi? Parce que ceux qui affectionnent les choses de Dieu s'attachent aux choses de Dieu. Et c'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ces hommes, rapidement? L'état d'un chrétien. À quoi ça ressemble? C'est quoi l'état d'un chrétien? Premièrement, il vit spirituellement. C'est une définition très, très, très terre-à-terre et spirituelle en même temps. C'est qu'un chrétien, il a une vie spirituelle. Oui, elle peut être maganée, on peut passer des temps difficiles, on peut lutter contre certains péchés. Par avoir remarqué la semaine passée, je vous disais, c'est toujours les mêmes péchés qui viennent cogner à notre porte. On se dit, comment se fait ça? Il faut distancer des obéissances. C'est ça la maturité chrétienne. Lutter contre le péché qui effectivement nous enveloppe. Mais une chose certaine, celui qui a la vie, il a la vie spirituelle. C'est ce que le texte nous dit. Et nous avons la paix. Mais quand les gens disent paix, 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 puis n'a pas de paix, posons-nous la question. On a rencontré hier trois personnes qui disaient paix, 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 puis il n'y avait pas la paix. Il n'y avait pas. Pensait l'avoir. Puis ça fait chrétien. Il ne l'avait pas. L'état du chrétien, c'est la vie spirituelle dans l'esprit, par la puissance de l'esprit, qui s'affectionne aux choses de l'esprit. C'est normal. Ce n'est pas l'exception à la règle. Ah, vous autres, il n'y a rien que les disciples qui s'affectionnent. Puis nous autres, les simples chrétiens, on vous en regarde aller, puis on vous applaudit. Non, non, ce n'est pas dans la Bible, ça. On est tous des disciples. Et tous, nous avons à affectionner, mettre notre amour, notre attachement, nos comportements, selon l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par grâce. Un pas à la fois. Jonathan Edwards dit ceci, « L'affection est une vigoureuse inclinaison et un exercice de la volonté de l'âme. Qu'est-ce qu'on veut dire affection? La gravité du péché. Un des premiers indices que quelqu'un qui n'a pas une vigoureuse inclinaison de l'âme dans l'exercice de la volonté de l'homme pour l'affection vers Dieu, c'est qu'il minimise le péché. Le péché est plus grave. Regardez les sans-dieux. Il n'y en a quasiment plus de péché dans le monde. C'est pas vrai, ça? Ils définissent leurs propres termes. Hein? Ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, c'est bien. Nous, on a la parole de Dieu. Et quand on trouve un chrétien qui cherche dans la Bible à justifier son péché, c'est rendu loin, ça, là. L'affection est une vigoureuse inclinaison et un exercice de la volonté de l'homme. Inclinaison. Celui qui est né de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le fait renaître et lui donne cette inclinaison, ce penchant spirituel. Et s'affectionne son amour, son attachement, son comportement, ses désirs, les plus profonds des cœurs vont vers Dieu. Il souffre de la gravité du péché dans sa vie. Un indice de l'affection, c'est aussi une affection pour marcher, pour adorer et louanger Dieu et honorer Dieu dans ta vie. Et tous les gestes et les paroles d'un chrétien qui est teint par l'Esprit de Dieu et l'inclinaison qu'il a dans sa volonté et dans son exercice par la grâce de Dieu, tous ces gestes sont teints de l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'activiste chrétien. Ce n'est pas le paraître. C'est un cœur qui appartient à Dieu et l'affection de ce cœur. Dites-moi où vous mettez votre temps, votre argent, vos énergies, vos talents, puis je vais vous dire ce que vous aimez le plus. Le christianisme biblique est un christianisme qui est basé sur un cœur qui est à Dieu et aimer Dieu plus que le péché. Et lorsque je chute, c'est parce que j'ai aimé mon péché plus que Dieu. Je dois me repentir. Cette inclinaison de ma volonté vers Dieu m'amène en repentant au pied de la croix. Et je ne suis pas rebelle lorsque la parole me dit « Hey, tu es en train de virer sur le mauvais bord. Ta mentalité ne correspond pas avec ce que la parole de Dieu dit. » Regardez le cœur de David. On n'a pas le temps, c'est dépassé. Un homme selon le cœur de Dieu, pourquoi? Pourquoi? Parce que quand Nathan est venu le voir, il a conté cette histoire de 100 brebis puis une brebis, souvenez-vous, hein? Il a dit, cet homme-là mérite la mort. Il a dit, c'est toi, cet homme-là. David s'est repenti. Puis il a accepté. Le contraire de Saül. Quand Samuel a été le voir, puis Samuel a dit, viens avec moi, que ça paraisse bien devant tout le monde. Samuel, viens avec moi. Et Samuel dit, non. L'Éternel t'a rejeté, puis il déchire la robe de Samuel. Et il dit, Israël sera déchiré de toi. Deux hommes, premier roi choisi par le peuple, deux hommes rois choisis par Dieu. Un, soucieux de l'apparence, soucieux d'être religieusement correct, tandis que l'autre, il regardait son cœur et acceptait quand Dieu lui disait « c'est pas correct ». On va arrêter là. Vous savez, Romains 8, il y en a qui l'appellent le plus grand chapitre de la Bible. Parce que ça nous parle. Puis ça nous met sur la corde raide pour décider où vont nos affections. Où va notre amour? Où vont nos désirs? Notre comportement? Et vous connaissez l'adage qui dit, quand ça jappe, c'est un chien, et quand ça miaule, c'est un chat. Vous connaissez ça? Ouais. On va prier. Seigneur, donne-nous de réaliser ce matin, dans un peu de temps, à cette réflexion sur qu'est-ce qu'est un chrétien. Il est un disciple, quelqu'un qui affectionne les choses de l'Esprit de Dieu, qui est vivant pour Dieu et est en paix. Et Seigneur, nous voulons te demander de vérifier chacun de nos cœurs ici ce matin. Et si tu vois dans nos cœurs un endurcissement à ta parole, si tu vois dans nos cœurs que pour nous le péché est presque pas important ou presque pas, puis c'est pas grave, si tu vois dans nos cœurs une affection qui est constamment vers la chair, peu importe l'apparence extérieure, parle à nos cœurs. Fais-nous réaliser ensemble que nous devons affectionner les choses de l'Esprit de Dieu. Et c'est seulement par la croix que nous pouvons faire cela. Seigneur, que la croix de Jésus-Christ, qui est la porte d'entrée dans cette nouvelle humanité, qui est la tienne, par l'Esprit, soit dans chacun et chacune de nos cœurs ici ce matin. Fais de nous, Seigneur, des disciples sérieux, zélés pour toi, et qu'on puisse, Seigneur Dieu, proclamer ton nom autour de nous. Car tu es un Dieu qui a une bonne nouvelle pour nos contemporains. Et nous te demandons, Seigneur, de faire de chacun de nous les adultes spirituels que tu veux que nous soyons. C'est en ton nom qu'on te prie. Amen.